La capacité de prévoir, très 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 difficile, hein. C'est très hasardeux. Par contre, c'est sympathique de dire je pense si et d'ouvrir un débat. Mais nous, on n'a pas du tout cette approche-là. On ne dit jamais ça. On dit simplement, aujourd'hui, nous sommes en inflation. Quand on a été en inflation, de même façon, depuis fort longtemps, à travers des tas de situations différentes, de cycles, d'époques, de productivité, etc., à chaque fois, c'était pas terrible, hein.
Didier Darcet, bonjour.
Bonjour Richard.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je voulais faire une vidéo pour parler de management du risque face à la prévision, qui sont deux attitudes complètement différentes. Et il y a une qu'est-ce que c'est que gérer le risque? C'est ce qu'on a fait à l'été 2021. Et qu'est-ce que c'est que prévoir? Et ça va nous amener à cette notion d'espérance de gain.
D'accord.
En mathématiques, pour c'est important de bien décomposer ces choses-là pour qu'on comprenne voilà ce qu'on fait et comment on pense et et quels sont les risques associés.
Et ça c'est un point, c'est une très très bonne question ça, parce que nous on a une approche dans les modèles qu'on développe, mais aussi notre façon de penser l'économie, la finance, etc., qui est sur la gestion justement de gestion, comme de managing, gestion du risque, qui n'est pas une question de prévision. On se refuse à faire des prévisions. Et en fait, il y a deux écoles. Hein. Tu vois, par exemple, cette année, on a commencé à dire, attention, l'inflation est en train de monter.
Début 2021.
Début 2021. Fin février 2021, on dit, les États-Unis, ça devient inflationniste. Et puis, successivement.
Donc là, c'est pas de la prévision.
C'est pas de la prévision. On constate. Voilà. On regarde la tendance de l'inflation, l'inflation sur un an par rapport à l'inflation longue sur 7 ans. Tout le monde peut le mesurer de la même manière. Et on dit, ça y est, c'est accroissé. Ça y est, on est en inflation. C'est tout. Bon. Et puis ensuite, on constate que dans l'histoire, mais on peut remonter à 10 ans, 20 ans, 50 ans, 100 ans, 130 ans, c'est ce qu'on fait. À chaque fois que ça se passe, c'est pas terrible. Hein. C'est pas terrible. Donc on dit, oulala, attention, quand l'inflation repart, justement, l'euphorie des marchés actions, c'est terminé. Donc n'espérez plus les grands rallyes, etc. Vous pouvez encore avoir des profits qui montent, mais les espérances, c'est-à-dire les multiples, vont baisser. C'est ce qu'on avait dit. Voilà, c'est ça.
Ça, à l'époque, j'avais fait un tableau que j'avais publié sur Nestor, de la dynamique inflationniste, et on avait montré que plein de pays étaient en train de passer, les courbes commençaient à se croiser. Et comme ça se croise pas tous les 3 semaines, voilà, quand c'est parti, en général, il y a de l'inertie.
Il y a de l'inertie, voilà. Absolument, c'est ça.
Donc, et aujourd'hui, en octobre 2021, là, on est dedans.
Donc, on est d'accord, c'est un constat qui maintenant est absolument universel, c'est qu'on est rentré en période inflationniste, et c'est quelque chose d'assez nouveau, hein, parce qu'on n'a pas connu ça depuis assez longtemps en Europe. Ça. Le risque en Europe, c'était plutôt qu'on aille vers l'autre côté, vers pas assez d'inflation.
Et on l'a anticipé sans le prévoir.
Alors voilà. Nous, on a simplement mesuré qu'on était en période inflationniste. Alors maintenant, tu as deux écoles qui arrivent là-dedans. C'est ça qui est toujours très drôle. Tu as les écoles des gens qui disent « Oui, mais vous inquiétez pas, ça va être temporaire. Donc, continuez à être investi, etc. » Et nous, on dit « Qu'est-ce que vous en savez? Tu vois, c'est toujours la même chose. On dit, je sais rien, c'est temporaire. Ah, si, ça va être temporaire. Et puis ensuite, il y a des raisonnements qui se fondent et qui peuvent être bons, hein, pour dire si ça va être temporaire parce que ceci, cela. Bon. D'accord. Mais on peut dire aussi parce que ceci, cela ou l'inverse. Bon. Il y a peut-être des raisonnements qui sont meilleurs que d'autres. Mais c'est toujours de la prévision. La prévision, c'est un énorme problème. Parce que ça marche pas. D'ailleurs, il y avait un article dans le Financial Times. Il y avait un article dans le Financial Times qui était très, très drôle il y a 6-7 ans. Le type, justement, il analysait ça, il regardait toutes les prévisions économiques, et il avait fait deux conclusions, qui étaient la première, c'est que c'est extraordinaire, mais tout le monde prévoit la même chose. Ah, il regardait le FMI, la Banque mondiale, les analystes des grandes banques, etc. Tu vois, bon, il disait, mais il y a un consensus, c'est vrai.
Donc
c'est bizarre. Alors peut-être ils ont tous raison, soit ils se copient, en fait, tu vois, toujours la même question. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il disait, mais en termes de résultats, c'est catastrophique.
C'est pas dingue.
Mais c'est catastrophique. Alors il donnait un exemple qui était assez marrant, qui était en avril 2008. En avril 2008, l'économie commençait à être vraiment sérieusement...
Cinq mois avant Lehman,
ça commençait vraiment à aller bien. Eh bien, je crois qu'il n'y a pas un de ces grands organismes qui avait prévu une récession pour 2009. Et il y en a eu du genre, mais 44 pays qui ont été en récession. Il y en a pas un qui l'avait annoncé. Donc c'est absolument fascinant. C'est-à-dire qu'on était au bord d'une récession gigantesque qu'on n'avait pas connue depuis fort longtemps. Personne ne le voyait. Donc ça veut dire que la capacité de prévoir, très 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 difficile, hein. C'est très hasardeux. Par contre, c'est sympathique de dire je pense si et d'ouvrir un débat. Mais nous, on n'a pas du tout cette approche-là. On ne dit jamais ça. On dit simplement aujourd'hui nous sommes en inflation. Quand on a été en inflation, de même façon, depuis fort longtemps, à travers des tas de situations différentes, de cycles, d'époques, de productivité, etc., à chaque fois, c'était pas terrible. Hein. Donc, le risque est là. Le risque est là. Et si le risque est là, on va regarder dans l'espérance de gain. On voit que ce risque a monté. Si l'espérance de gain n'a pas monté pareillement, on dit, oulala, je vais pas commencer à jouer au casino, là.
Alors, qu'est-ce que t'appelles l'espérance de gain? Parce que c'est un truc qui est pas forcément très
Oui, d'accord. Bon, bah par exemple, tu peux te rendre compte que OK, tu as une espérance de gain. Alors, tu peux le voir par rapport à différentes choses. C'est-à-dire que le marché, alors l'espérance de gain en général, si on parle au niveau d'une économie, c'est par exemple, c'est la croissance de l'économie. Bon, c'est la croissance de l'économie, c'est son espérance de progrès. De gain. Bon, l'économie, elle peut croître parce que le nombre de personnes augmente. Ça, c'est pas une espérance de gain. C'est simplement un nombre de personnes qui augmente. Ou c'est le revenu par tête qui augmente. Ça, c'est une espérance de gain pour une personne. Si mon revenu par tête, donc mon revenu à moi augmente, c'est une espérance de gain. En salaire, etc., en compensation, etc., ou alors en profit sur les marchés. Bon, ça, c'est lié, par exemple, à la productivité. Espérance de gain. Voilà. Espérance de croissance par tête. Bon, la croissance par tête, par exemple, les profits, des sociétés qui vont être distribuées, bon, on voit que la croissance, les profits des sociétés, c'est lié. Bon, donc vous avez des espérances de gains qui sont liées à l'activité économique par elle. Voilà. Et puis ensuite, dans les marchés financiers, ben, il y a différents types de rémunération de l'argent que vous acceptez de prêter à quelqu'un d'autre ou de donner à quelqu'un d'autre pour qu'il l'utilise pour son activité. Et vous n'aurez pas la même rémunération selon que votre risque est plus ou moins fort sur les variations de ce prêt. Donc, si vous êtes dans les actions, vous aurez un rendement plus important parce que le risque est plus fort. Si vous êtes sur l'obligation, ce sera un peu plus faible. Et si vous allez en cash, ce sera pas terrible. Ce sera pas très fort. Sauf aujourd'hui. Mais bon. Donc, voilà. Donc, il y a un lien entre le risque et le rendement. Et le marché arbitre en permanence le risque et le rendement. Donc, comment est-ce qu'on fait, nous? C'est-à-dire que ce qu'on dit, c'est que compte tenu d'un niveau de risque aujourd'hui, quel a été le rendement des actions au-dessus du cash et au-dessus du sans risque, au-dessus du taux sans risque, historiquement. Et ça nous donne une très forte indication. Par exemple, si on est en période, inflationniste sur les marchés actions, l'espérance de gain des marchés actions est inférieure au cash. Ça ne veut pas dire que dans les 6 mois qui viennent, les marchés ne vont pas monter. Mais ça veut dire que si vous investissez à chaque fois qu'il y a de l'inflation, ben ça va monter un petit peu, puis baisser. Puis ça va remonter un petit peu, puis baisser. Monter un petit peu, plus baisser, puis baisser. Donc vous regardez la moyenne de ces hausses et de ces baisses depuis 5, 10 ans, 100 ans, et ben vous voyez que ça baisse. Alors ça peut bouger un tout petit peu autour. C'est exactement comme quand tu joues au casino. Tu gagnes, tu perds, tu gagnes, tu perds, tu gagnes, tu perds. Et puis à la fin, tu as perdu la commission de
casino. Donc l'espérance de gain mathématique au casino est négative,
oui.
Parce qu'au final, comme le casino prélève toujours son obol, quand on prend la somme des joueurs, hein, c'est pas le cas individuel, la somme des joueurs ressort plus pauvre qu'elle est rentrée. Quoi.
Par définition, bien sûr.
Alors, comment s'en sortir? Il y a 3 grandes stratégies que l'on peut adopter face aux risques, et je pense qu'elles sont complémentaires. La première, c'est d'être partout pour ne pas subir un choc de plein fouet. C'est une attitude qui vous garantit de ne pas mourir en cas de gros choc. Dans ce cas-là, nous pensons avec Didier que la diversification s'opère entre 4 classes d'actifs. Les actions, les obligations, le cash et les biens tangibles. En fonction de votre sensibilité au risque, vous arbitrez plus ou moins vers le cash, les biens tangibles ou les obligations, et plus vous voudrez prendre de risques, plus vous irez vers les actions ou vers la crypto-monnaie. Après, vous pouvez adopter l'attitude complètement opposée de l'hyper-spécialisation. C'est le moyen le plus rapide de s'enrichir, mais aussi de tout perdre. C'est là que l'on trouve les millionnaires en action Tesla et les désespérés qui ont fait tapis sur Liberty Surf en 1999. À titre personnel, je me situe plutôt ici puisque j'ai investi la grande majorité de mon patrimoine dans une seule entreprise, une entreprise familiale dans laquelle je crois et dans laquelle je suis très impliqué. Ce n'est ni bien ni mal, tout dépend de ce que vous voulez en faire. En réalité, je pratique une diversification dans les actifs à risque puisque je suis aussi très investi en crypto. Cette exposition à la crypto est très liée au développement de ma chaîne Grand Angle Crypto puisque j'ai pour principe de boire l'eau que je vends à mes clients. Ma logique toute personnelle est de multiplier les investissements qui me permettront potentiellement d'exploser à la hausse comme à la baisse d'ailleurs. Je suppose que je m'assagirai sûrement avec le temps, peut-être. Enfin, vous pouvez avoir une attitude modérée entre ces deux extrêmes, et c'est ce que nous développons dans la lettre que je corrédige avec Didier. C'est grâce à cette approche que j'assure une partie de mon patrimoine, histoire de rassurer ma femme. Elle m'aime beaucoup, mais j'imagine qu'il ne faut pas trop non plus que je pousse le bouchon. Enfin, dans l'optique modérée, nous naviguons entre les classes d'actifs dont je vous ai parlé, mais en nous basant sur un modèle de risque développé par Didier qui a fait ses preuves. De cette façon, on peut passer à côté de certaines hausses, mais toute la différence se fait sur les pertes que l'on évite à long terme. Et ça, ça fait toute la différence car ce modèle surperforme le S&P 500 en prenant appui sur les grosses baisses de marché que le modèle évite. Si vous souhaitez en savoir plus sur la gestion de portefeuille et que nous vous aidions chaque mois à gérer correctement votre épargne, cliquez sur la fiche qui apparaît en haut à droite de l'écran ou sur le lien en description.
Sur les actions, l'espérance de gain pour moi est négative, compte tenu du fait, notamment qu'on est en période inflationniste, il y a d'autres raisons aussi, c'est qu'on a une question de liquidité, mais compte tenu du fait qu'on est rentré en inflation, l'espérance de gain, ça veut dire je joue au dé 36 fois et qu'est-ce que quand j'aurai joué 36 fois, qu'est-ce que j'aurai gagné ou pas. C'est pas exactement ce qui va se passer les trois prochains coups parce que ça bouge quand même.
Hein. Bah, c'est ce qui est passé cet été, c'est-à-dire que dans la lettre début ouais. juillet, on disait bah risk off, ouais. on arrête les actions ouais. et puis c'est monté. Ouais. 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 Donc là, on est un peu ouf. Ouais. Et puis finalement, septembre, on est retombé plus bas que.
C'est ça. Ouais.
Mais voilà, en fait, c'est comme le risque est là.
C'est ça.
Et je prends par comparaison le marché du Bitcoin, ouais. qui est lui en espérance de gains positives dès l'instant qu'on admet que fondamentalement le Bitcoin est intéressant. Ouais. Parce qu'on se dit ça bouge, ok. Ouais. Mais globalement, si on admet que ça va devenir un instrument monétaire ou de réserve de valeur accepté mondialement, etc., on se dit la perspective est bonne. Ouais. Donc même si j'achète à 40 000, j'ai de bonnes chances de finir à 100 000, à je sais pas combien. Ouais. Mais en fait, on sait pas. Peut-être que ça va baisser ou monter. Mais ouais. voilà, globalement, l'espérance de gain est bonne. Mmh. Et puis pour donner un exemple, tu sais, l'exemple, l'espérance de gain neutre. Oui. C'est quand je joue avec ma fille à la bataille.
Oui.
Donc c'est moins hasardeux, oui. mais on a le même nombre de points. Oui. Voilà. Donc on se distribue les points entre nous. Oui. Donc à la fin, si on joue pendant 10 ans ou pendant une heure, parce que 10 ans, on n'aura rien gagné. On aura fait pareil l'un et l'autre. Quoi.
Voilà, ça veut dire qu'on a, vous avez chacun, gain, toi, ta fille et toi, vous avez une chance sur deux de gagner.
Voilà.
Exactement. Parce que si c'est bien trié, hein, si oui. c'est bien trié, vous avez une chance sur deux de gagner. Mais ça ne veut pas dire que ta fille va pas gagner 4 fois de suite. Elle va gagner 4 fois de suite. Mais si vous continuez à jouer, tu vas finir par regagner, puis tout ça va converger vers une chance sur deux. C'est la loi des grands nombres. La loi des grands nombres. Donc, l'espérance de gain, c'est la loi des grands nombres. C'est qu'est-ce qui se passe au bout d'un très grand nombre de cas. Évidemment, voilà. Donc, dans l'exemple de ta bataille, l'espérance de gain, c'est zéro. Enfin, c'est zéro. Neutre. Enfin, c'est neutre. Tu vas gagner une fois, perdre une fois, gagner une fois. En moyenne, tu vas être à zéro. Et puis, quelquefois, tu as une espérance de gain qui est positive, une fois qu'elle est négative. Bon. Quand tu as une espérance de gain qui est positive, la deuxième question qu'il faut se poser, c'est ok, mais conditionné à quel risque? Parce que c'est très bien de dire je vais gagner un tout petit peu plus, oui, mais enfin si mon risque est gigantesque à court terme, hein, si parce que c'est ok, voilà des grands nombres, je vais gagner 2% par an, mais si dans le court terme je peux perdre 99%, vas-y, vais pas. Bitcoin.
C'est le problème du Far West.
C'est le problème du Far West. Donc voilà.
Quand je suis un cow-boy, j'arrive dans le Far West, je peux me faire tuer par un Indien ou quelqu'un, la partie s'arrête.
Oui, voilà.
Mais si je joue bien mon coup, je deviens américain, je conquiers l'Amérique.
Je conquiers l'Amérique.
Donc l'espérance de gain, elle est énorme.
Elle est énorme.
Parce que l'Amérique.
Tu peux avoir les territoires qui s'ouvrent à toi et qui sont pour toi.
Voilà. Ouais. Donc l'Amérique, ça a marché. Hein, donc l'espérance de gain était bonne.
Exactement.
Mais tu peux quand même te faire tuer dans le processus.
Voilà. Et c'est parce que l'espérance de gain est forte que tu vas prendre le risque de te faire tuer.
C'est ça.
Et donc le marché arbitre ça en permanence. Il est tout le temps en train d'arbitrer cette espérance de gain et cette espérance de perte. Donc voilà, managing contre forecasting, c'est sûr que forecasting, on fait pas. Et par exemple aujourd'hui, nous on dit l'inflation, on n'en sait strictement rien si elle va baisser, mais strictement rien, on ne s'engage en rien. C'est la même chose sur le pétrole. Par exemple, on a souvent des questions de clients qui nous disent bon alors vous voyez le pétrole où?
Il va et, monter ou il va baisser?
Vous le voyez, alors tu entends d'ailleurs les analyses, moi ça m'amuse toujours parce que tu entends les analyses dans le marché qui disent souvent, le pétrole, je le vois entre 70 et 80. Tu peux être sûr qu'il est à 75 quand tu te dis ça. Parce que la plus, mais évidemment, puisque la façon la plus sûre d'avoir raison, c'est de regarder le prix là et de donner une fourchette. Parce que de toute façon, ça va rester à peu près dans cette fourchette jusqu'au moment où ça dépasse et tu ajustes ta fourchette.
Le super moite-moite.
Mais qui sait à combien sera le prix du pétrole dans 6 mois? Tu n'as absolument aucune idée. Aucune idée. Donc nous, on dit pas du tout ça. On dit, oulalalala, il était à 20, il est passé à 75. Ça, c'est une hausse significative du prix du pétrole. Regardez, par exemple, le gaz. Le gaz, bah, il a été multiplié par 4 cette année, le prix du gaz. Donc, les gens, là, en France, augmentation du prix du gaz.
On sent bien, là.
40% en 3 mois, là. Mais 40%, on dit, c'est effrayant. Mais attendez, c'est pas 40% sur le marché, c'est 400% qui a été pris, hein. Donc, les 40%, c'est juste tout petit peu par rapport aux 400%. Donc, bon, voilà, bon. On constate simplement ça. Donc, on constate, par exemple, quand il y a une inflation du prix du gaz, eh ben, le portefeuille des ménages, il diminue, hein, voilà. Et quand il diminue, on en a parlé, les gilets jaunes, bon, on a moins de consommation, ça coûte plus cher, les entreprises font moins de profits, etc. Donc, si on te dit, est-ce que c'est le moment d'acheter des actions quand le prix de l'énergie monte, tu dis non. Tu dis, bah, écoutez, vous pouvez toujours tenter, hein. Il y a des entreprises qui vont s'en sortir, il y en a qui n'ont pas vraiment besoin d'énergie, etc. Bon, tu peux toujours être plus subtil dans l'analyse. Mais tu sais très bien que quand le prix monte, les profits vont baisser. Et la consommation va baisser, etc. Donc, exactement ce qu'on fait. Donc, aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est qu'on est en situation inflationniste, et on est avec un prix de l'énergie qui monte, et puis ensuite, il y a d'autres choses, ça fait deux questions, deux raisons d'être extrêmement prudent. Parce que ça veut dire que votre espérance de gain a baissé, et puis ça veut dire que le risque, en plus, il commence à monter, lui, à s'agiter, parce qu'on a mis trop d'argent, parce que, etc. Ceux qui décident de faire de la prévision peuvent vous dire complètement autre chose, et ils auront peut-être raison. Par exemple, des gens qui vous disent, et je pense qu'ils ont raison, il y a eu tellement d'argent qui ont été mis dans le système, que cet argent va alimenter une demande gigantesque dans les 5 prochaines années. Et donc, ça va être une euphorie dingue en termes de croissance.
Bah, les Keynésiens sont à fond là-dessus.
Oui, et on ne peut pas dire le contraire sur ce. C'est-à-dire que c'est parfaitement logique, et c'est assez vrai. Par exemple, aux États-Unis, la croissance américaine a diminué un petit peu, mais elle reste au-dessus de sa croissance de long terme, de sa croissance potentielle. Donc, ça veut dire que les États-Unis sont en train de croître à 3% ou plus, ce qui est beaucoup pour les États-Unis en ce moment. Donc, ils ont raison que cette croissance, elle est là. Simplement, dire que je prévois que cette croissance va rester très forte au-dessus du potentiel. Je prévois que l'inflation va être temporaire, tu vois. Toutes ces choses-là. Je prévois, en fait, toutes ces choses qui, et que le prix du pétrole va baisser parce que l'Arabie Saoudite va, OK. Tu vois, quand tu as toutes ces conditions-là, alors, si tout ça se produit, tu auras raison. C'est-à-dire que les marchés vont rebondir fortement. Et nous, on ne dit pas ça du tout. On dit, je ne sais rien sur l'Arabie Saoudite. Je ne sais rien si le pétrole va monter ou pas. Je ne sais pas si la croissance va continuer ou pas. Je sais qu'aujourd'hui, la croissance est bonne. Mais l'inflation est là. Et quand tu as le mix inflation-croissance et une croissance inflationniste, ça n'est pas particulièrement bon pour les actions. Ça n'est pas particulièrement bon. Ce qui est bon pour les actions, c'est une croissance désinflationniste. Croissance inflationniste, quelquefois ça marche bien, quelquefois ça marche pas. Espérance de gain, pas terrible. Et ensuite, on va regarder les niveaux de risque. On voit que le risque est en train de monter de partout. On regarde espérance de gain qui a fortement baissé. Espérance de risque qui a monté. Aucune prévision. Prudence.
Merci beaucoup.
De rien.
Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et pensez bien à cliquer sur la cloche pour être notifié lorsque je publie de nouveaux épisodes. Et pour recevoir le guide de l'investissement de ceux qui ont déjà réussi, inscrivez-vous ici.